Alors, sans plus tarder, je vous invite à tourner dans vos Bibles en Éphésiens chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 7. Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté dessus, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et on a regardé ce passage l'autre dimanche, versets 8 à 10, qui n'est pas un passage des plus faciles à saisir. Et au verset 11, l'apôtre Paul ici nous écrit le plan de Dieu concernant son Église, et c'est une seule et même phrase dans l'original, du verset 11 au verset 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emporté à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croit-on à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Prions s'il vous plaît, notre Père. Merci de placer ce texte devant nous ce matin. C'est une telle richesse, une telle profondeur, qu'il nous semble que nous n'allons pouvoir que commencer à le saisir. Mais nous voulons mettre en pratique ce que toi, tu as décidé de toute éternité, ce plan merveilleux qui est ton Église, et la façon avec laquelle tu veux que nous agissions dans cette Église qui est le corps de Christ. Alors nous nous humilions en te demandant grâce, en te demandant, Seigneur, de nous éclairer et de nous faire la grâce aussi de mettre en pratique ta parole. Nous nous inclinons devant toi, Dieu, c'est ton Église. Christ, tu en es le chef et nous sommes les membres. Donne-nous d'entrer pleinement dans le plan de Dieu. Au nom de Christ. Amen. Dans les versets 1 à 3, nous avons vu ce que c'est qu'une marche digne, et on a fait toute une série de messages là-dessus. Dans le verset 4 à 6, l'apôtre Paul nous développe les bases, les fondements de l'unité, un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous, l'unité de l'Église, et puis à partir du verset 7, nous avons un changement d'orientation, de présentation de l'Église, qui est en fait la diversité dans l'Église. On a déjà parlé ensemble de l'importance d'avoir l'équilibre entre l'unité de l'Église et la diversité. L'unité, tout le monde n'est pas moulé dans un même moule, et la diversité donne une variété, mais l'unité ne devrait pas empêcher la diversité, ni la diversité être au détriment de l'unité. C'est incroyable comment Dieu fait les choses. Ça nous dépasse. C'est merveilleux. Dieu a prévu dans son Église que nous soyons un, alors que nous sommes tellement différents les uns des autres, et que Dieu nous a donné aussi des dons différents dans l'Église. Est-ce que vous le croyez, que vous êtes membre d'un corps et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Est-ce que vous réalisez que Dieu a un plan? Et ce plan, ce n'est pas nous qui pouvons le dessiner, c'est lui l'architecte, c'est lui le bâtisseur. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui et contre son Église. Et en fait, c'est lui qui est à l'origine de l'Église. J'aimerais vous présenter un petit schéma. Alors, les schémas, c'est toujours un petit peu humain et je ne voudrais pas être trop linéaire dans cette façon de voir le texte, avant d'aller voir un verset en particulier, mais on va regarder ce qu'est le plan de Dieu. le plan de Dieu pour son Église. L'origine de l'Église, c'est Christ. D'accord ? Je crois qu'il n'y a aucune contestation là-dessus. Ensuite, Dieu a une stratégie générale. C'est que son Église est composée de tous et chacun par une grâce qui est donnée à chacun selon la mesure de Christ. C'est-à-dire que Dieu a fait un don en Christ pour chacun de nous, un don, le don de l'Esprit-Saint, un don spirituel, et dans la mesure, et la quantité ça veut dire, où Dieu nous l'a donné, nous exerçons ce don par sa puissance. Et chacun a un don, au moins le don du Saint-Esprit lorsqu'il est régénéré, et un don spirituel au moins, sans parler des talents que Dieu sanctifie pour mettre au service du corps. Il y a une stratégie particulière que l'on voit ici à partir du verset 11, c'est que Dieu a fait des dons particuliers, des dons d'hommes. Il y a les dons donnés aux croyants, à tous les membres, et puis il y a des dons d'hommes doués dans le ministère avec des dons spirituels qu'on appelle ici les apôtres, les prophètes, les évangélistes, pasteurs et docteurs, suivant la préposition grecque ici qui sépare le mot pasteur et docteur. L'objectif de Dieu, c'est en fait le perfectionnement des saints. Donc Dieu, en Christ, à l'origine de l'Église, il donne des dons à chacun, il donne des dons d'hommes pour équiper l'Église, pour perfectionner les saints. Ça, c'est son objectif qui a pour double but, ici, on a lu dans le texte, qui a pour double but l'œuvre du ministère. On va en parler, l'œuvre du ministère ce matin et l'édification du corps de Christ. Tout cela nous amène ensuite à des résultats que l'on trouve à partir des différents versets qui suivent le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, et que nous soyons à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dieu veut que dans son Église, au travers de ce schéma, nous puissions être unis dans la foi, connaître Dieu et grandir, croître en maturité. La maturité est le reflet de l'Esprit de Dieu, de l'œuvre de Dieu dans chacun de nous, mais c'est aussi le fait que les dons d'hommes soient accordés à l'Église pour équiper les saints. On va y venir. Le résultat de tout cela, c'est qu'il y a une stabilité doctrinale. Il y a aussi la profession de la vérité dans l'amour, notamment l'évangélisation, mais aussi la saine doctrine chrétienne en général, qui est professée dans l'amour. La vérité est indissociable de l'amour et vice-versa. Et puis finalement, pour aboutir au verset 16, à la croissance. Ça, c'est le plan de Dieu. Merci. Ça, c'est le plan de Dieu concernant son Église au travers ici de ce passage. Maintenant, nous allons nous attarder, oui, en quelque sorte, au verset 12, où il est écrit que Dieu a donné donc tous ses dons d'hommes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. En fait, Dieu veut que chaque croyant se perfectionne afin de pouvoir servir et édifier le corps. Alors, la question, je pense que le Seigneur nous laisse ce matin, est-ce que vraiment je suis un croyant qui se perfectionne? Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis un croyant qui exerce un ministère? Et quel ministère? Est-ce que je suis un croyant qui édifie le corps? Et dans quelle mesure? Ça, c'est le plan de Dieu. Et regardez bien ici que c'est tous les saints. Ce n'est pas quelques saints, quelques croyants. Chaque croyant est appelé à se perfectionner. Chaque croyant est appelé à exercer un ministère. Et chaque croyant est appelé à édifier le corps. Et c'est ce que nous allons regarder par la grâce de Dieu ce matin. Qu'est-ce que c'est que le perfectionnement? Peut-être que nous devons comprendre cela. Le perfectionnement des saints. Le mot « saint » ici signifie tout simplement tout ce que Dieu a mis à part pour le salut. Mais l'évangéliste amène les âmes au Seigneur, les croyants. Il n'y a pas que les évangélistes dans leur fonction. On va parler de ça plus en détail. Donc dimanche prochain, Dieu voulant. Mais le pasteur, lui, pasteur, docteur, enseignant, a pour but justement d'enseigner la parole afin que le croyant puisse ressembler de plus en plus à son Seigneur et apprendre à obéir aux Saintes Écritures. Maintenant, ce n'est pas un rôle qui est réservé simplement aux dons ici qui sont mentionnés au verset 11. C'est le rôle aussi de tous les croyants, nous y reviendrons. Qu'est-ce que ça veut dire le perfectionnement? Alors, excusez un petit peu cet aspect technique que je vais utiliser, mais c'est un mot grec qui vient d'un mot, d'un verbe grec, comme perfectionnement vient d'un mot français perfectionner. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Mais en fait, c'est intéressant de voir que l'étymologie du mot peut signifier aussi redresser, ajuster, compléter, raccommoder ce qui a été abîmé, entre parenthèses, réparer, compléter, équiper, mettre en ordre, arranger, ajuster. Moralement, on peut dire renforcer, compléter, faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Autrement dit, le but ici de ces hommes de Dieu, c'est de prêcher la parole afin que la parole redresse, mais aussi équipe le saint en vue du ministère et de l'édification du corps. Par exemple, en Hébreux chapitre 13, versets 20 et 21, je lis le texte ici, « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable. » Et c'est le même mot grec ici, ou accompli pour, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dans ce verset, il est clair que c'est Dieu qui rend capable. C'est Dieu qui perfectionne. Mais il utilise l'enseignement de sa parole et le ministère pastoral et les autres ministères de ses dons d'hommes pour perfectionner les saints. Mais il n'utilise pas que cela. Quels sont les outils que Dieu utilise pour notre perfectionnement? Vous avez déjà essayé de vous améliorer, on va dire, dans la vie chrétienne? Et vite, on s'aperçoit qu'on n'est pas capable. Hein? La chair ne peut rendre aucun homme parfait. Alors voilà la façon avec laquelle Dieu utilise plusieurs moyens pour nous perfectionner. Tout d'abord, la parole de Dieu, et vous en serez douté, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. » C'est le même mot grec ici, « complet, complété, soit ajusté, soit redressé, soit perfectionné. » Donc, « soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Dieu a commencé une œuvre en nous et il continue son œuvre en nous par la parole de Christ, donc l'enseignement. John MacArthur, un commentateur de la Bible, un pasteur, disait « Le premier but que doit donc poursuivre le pasteur enseignant est de se nourrir, nourrir les autres et de leur apprendre à se nourrir eux-mêmes. » Voilà un aspect de l'effet de la parole de Dieu dans nos vies. Le deuxième aspect, c'est la prière. Vous savez, les apôtres ont dit à un moment donné, en Actes chapitre 6, alors qu'il y avait un problème de servir aux tables, qui a été résolu par l'élection de diacres, on le voit clairement dans les Actes des apôtres, et les apôtres ont dit, au verset 4, « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Leur priorité, c'était la parole, le ministère et la prière. Par exemple, en Colossiens, Paul dit au sujet d'Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Certainement qu'on est l'objet des prières des autres, mais certainement que Dieu veut que l'on prie pour les autres. La Bible dit qu'on doit prier les uns pour les autres. C'est une façon de se perfectionner, d'être au pied du Seigneur, au pied de la croix, d'étudier la Bible, de prier. Luther disait « bien étudier, c'est bien prier, c'est bien étudier ». Quelque part, l'activité du ministère de la prière et de l'étude de la parole sont indissociables. La prière nous aide à comprendre les Écritures. Les Écritures nous aident à comprendre Dieu. Et parce qu'on aime Dieu et qu'on connaît Dieu, alors on met son cœur dans la prière, on ose passer du temps et se plonger dans le cœur de Dieu qui, lui, nous transforme, nous complète, nous perfectionne. C'est l'œuvre de la communion du Saint-Esprit en nous lorsque nous sommes en train de prier. Est-ce que nous passons du temps dans les Écritures ? Est-ce que nous passons du temps dans la prière ? Est-ce que nous réalisons notre besoin d'être transformés, d'être perfectionnés, d'être équipés, de comprendre la pensée de Dieu qui veut nous utiliser à sa gloire ? Et puis il y a deux autres aspects qui ne sont pas mentionnés ici dans ce verset, mais je pense que la Bible en parle très clairement, et donc nous pouvons le souligner, c'est le fait que Dieu nous perfectionne, nous rend plus complets, achève une œuvre en nous, nous perfectionne, je pense qu'on a compris le mot ici, c'est par l'épreuve et la souffrance. Jacques dit, « Mes frères, regardez, on connaît ce passage, comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Voyez-vous ici dans le texte, c'est le même mot grec encore, l'idée d'être complété, d'être redressé parfois, d'être équipé, d'être transformé. Comment réagissons-nous par rapport à l'épreuve ? Voyons voir ici. Y a-t-il quelqu'un, cette semaine, qui n'a eu aucune épreuve d'aucune sorte ? Je ne lève pas ma main, rassurez-vous. Aucune. Pourquoi ? Parce qu'on a tous des épreuves. Il y a des petites épreuves, il y a des plus grandes épreuves. Il y a des épreuves très très difficiles, mais chaque épreuve, si on croit en Dieu et sa souveraineté, est permise par Dieu. Il n'y a pas une épreuve que Dieu ne regarde pas et ne permet pas dans notre vie et pour laquelle il n'a pas une solution. La Bible dit « aucune tentation ne vous est survenue », mais le mot grec, en fait, c'est « épreuve », là. Petramos, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés de la de force, mais avec l'épreuve, il préparera le moyen de vous en sortir. Nous pouvons bougonner, nous pouvons nous mettre en colère, nous pouvons nous déprimer face à l'épreuve, nous pouvons réagir même contre Dieu, et pourtant Dieu permet l'épreuve. Ça ne veut pas dire que Dieu se réjouit de nos épreuves, ce n'est pas ça l'idée. Mais il les permet parce qu'en bon pédagogue, il permet des épreuves dans nos vies afin de faire une œuvre en nous. Le problème, c'est est-ce que nous laissons l'œuvre nous perfectionner, l'épreuve, ou est-ce que nous résistons ? Est-ce que nous plaçons Dieu au sein de notre épreuve pour le voir agir au travers de nous et dans les circonstances, ou est-ce que nous demandons tout simplement au Seigneur, « Oh non, Seigneur, enlève l'épreuve !» Enlève les circonstances. Ma vie serait tellement plus facile et meilleure si ma vie ne traversait pas cette épreuve et ces circonstances. Et le Seigneur souvent nous répond, eh bien, sache que dans cette épreuve, je suis avec toi, je te console, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne prenons pas des regards inquiets. Je t'aime d'un amour éternel et je suis avec toi. Comment traversons-nous l'épreuve ? Quand Dieu nous perfectionne, c'est un peu l'exercice de l'athlète. S'il ne va pas à l'entraînement, comment peut-il vouloir, n'est-ce pas, remporter le prix de la course ? Et les athlètes de Vancouver, comment vont-ils réussir s'ils ne se sont pas préparés ? Eh bien, dans la préparation physique et sportive, c'est une épreuve, c'est une discipline. Et Dieu, parfois, permet des disciplines dans notre vie au travers de l'épreuve. Le perfectionnement vient dans la mesure où nous laissons Dieu agir dans l'épreuve, qui révèle souvent qui nous sommes et où sont situés nos cœurs. Et souvent, reconnaissons-le, nous manquons de foi. Et Dieu permet l'épreuve afin que nous puissions avoir foi en lui. Il n'y a pas d'impasse pour Dieu. Il y a toujours un chemin que Dieu peut ouvrir. Mais parfois, le tunnel semble long, n'est-ce pas ? Mais Dieu est en train d'agir. Même si nous ne le voyons pas, nous le comprenons parfois plus tard. Et puis, il y a aussi la souffrance. La souffrance, la Bible dit, le Dieu de toute grâce qui vous appelait en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Il y a un moment donné où on est secoué, puis il y a une souffrance, et puis il y a même parfois une épreuve due au diable qui amène une certaine persécution. Et Dieu dit qu'il nous perfectionne pour nous affermir, pour nous fortifier, pour affermir notre foi, pour nous rendre inébranlables. Et ce qui, au début de la vie chrétienne, nous semblait comme des montagnes, plus tard, avec les années, dû à la fidélité de Dieu, ça nous semble moins impossible à franchir. Mais Dieu est là, puis nous envoie une montagne qui, par rapport à notre foi, nous semble énorme. Et là, on est obligé encore de s'humilier et puis de prendre quoi ? Le téléphérique divin, l'ascenseur divin, ça va mieux, hein ? De franchir un hélicoptère ou avec la grâce de Dieu, l'obstacle à franchir. Et parfois, la souffrance nous amène à un perfectionnement intérieur qui nous transforme. L'œuvre de la parole, l'œuvre de la prière, l'œuvre de l'épreuve, l'œuvre de la souffrance. Certainement que Dieu permet des épreuves, d'annouver des souffrances, mais de notre côté, nous devons nous perfectionner au travers de la parole, la prière. D'ailleurs, dans les épreuves et la souffrance, notre premier recours, c'est certainement la parole, connaître Dieu, sa pensée, ses promesses, et lui confier tout cela dans la prière. Dieu veut nous perfectionner. Et donc, le rôle de l'enseignant, c'est de prêcher la parole afin de faire connaître Dieu. Dieu a une œuvre à accomplir. Dieu veut nous transformer. Vous savez, c'est beau de voir quelqu'un qui se laisse transformer. Je me souviens d'un jeune homme au Québec qui, par une enfance, mais extrêmement difficile, j'allais dire presque un malchanceux de la vie, pour vous dire, sa femme avait divorcé pour se prostituer. Quand vous arrivez là, et pourtant il avait un enfant, et un jeune homme rencontré qui utilisait la drogue, qui était complètement confus dans son esprit, et à qui il a été remis un Nouveau Testament, et en le lisant, sa pensée a été transformée, il a abandonné la drogue, il a commencé à guérir, le Seigneur l'a sauvé, l'a amené à lui au pied de la croix, et c'est un jeune homme qui a été transformé, aujourd'hui remarié. Et puis quand on le voit avec les années, on voit le chef-d'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, il sert le Seigneur dans l'Église. Pourquoi ? Parce que Dieu a accompli une œuvre en lui. Il est devenu un pilier dans l'Église, un homme fidèle, parce que Dieu a transformé son cœur. Et c'est vrai que parfois, la Bible dit qu'on aime d'autant plus qu'on a été pardonné, on aime d'autant plus qu'on a été transformé. Quand on jouit des bénédictions de Dieu et qu'on voit tout d'un coup Dieu agir dans nos vies, mais on aime le Seigneur. Et on le loue, on l'adore, parce qu'il est en train de nous apprendre des choses. Est-ce qu'on est des élèves du Seigneur ? Est-ce qu'on se laisse transformer, perfectionner, changer ? Alors, le rôle, parce que c'est dans le contexte, et j'essaie de rester dans le contexte du passage ici, le rôle du pasteur enseignant, eh bien, c'est de prier aussi. Comme Epaphras, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Et Mono, un des grands prédicateurs qui prêchait plusieurs fois par jour dans un temps de réveil, qui était un prédicateur très connu, notamment dans la région parisienne et Paris, il disait « Aux croix de la prédication de la croix ». Et dans son livre « Les adieux », il confesse plusieurs choses. Il confesse une chose, dit « Oh, à la fin, il était mourant, il a écrit ses adieux ». C'est très touchant de lire son livre. Il disait « Il y a bien un regret dans ma vie ». C'est ne voir pas assez passer de temps dans la prière. S'il y a bien un regret en mourant que j'ai, c'est n'avoir pas assez passé de temps dans la prière. Alors, ayons cette humilité, cette grâce de chercher la face de Dieu, de passer du temps dans la prière, et prions par la grâce de Dieu. Le ministère de la parole, Paul disait, c'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu, encore le même mot, parfait en Christ, perfectionné. Paul avait une passion. Il avait une passion quand il voyait les âmes, que les âmes se convertissent. Mais il avait une passion encore plus grande, ou qui s'ajoutait à cette passion, de voir chaque croyant devenu un homme, une femme de Dieu, mûr dans le Seigneur. Capable de servir le Seigneur, être utile entre les mains du Seigneur, perfectionné, équipé. On a bien, ça me vient à l'esprit, des écoles d'ingénieurs pour devenir ingénieurs, des écoles d'architectes pour devenir architectes, des écoles, vous avez compris l'idée. Et Dieu cherche à nous perfectionner. On est à l'école du Seigneur. Vous savez, je suis persuadé que nous avons besoin d'apprendre à être enseignés par Dieu. d'être enseignable. C'est la marque du disciple. J'ai un maître, Jésus-Christ, et je suis qu'un élève, et j'apprends du maître, parce que le maître m'enseigne, et je me soumets à mon maître. Paul disait, je prêche la parole à Timothée, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Quel ministère, et je dirais aussi, quelle responsabilité. En Timothée, Paul dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Déclare ces choses, verset 11, enseigne-les, verset 13, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Dieu nous demande d'être au pied de la croix pour nous nourrir, et c'est le rôle du pasteur enseignant de se nourrir pour pouvoir nourrir les autres. Un privilège, mais aussi une grande responsabilité. Quelqu'un a dit ceci, le plus grand besoin de l'Église, ce n'est pas une meilleure organisation structurelle, mais c'est plus de prière et d'enseignement de la parole, parce que c'est la prière et l'enseignement de la parole qui amène la maturité et la croissance spirituelle. Notre besoin, ce n'est peut-être pas de connaître des nouvelles choses. Parfois, il y a une tentation dans le milieu évangélique, voilà, un scoop, tout d'un coup, comme si on découvrait quelque chose de nouveau dans la Bible. Et puis, ça devient quelque chose de très important. Mais vous savez, je crois que nous devrions d'abord comprendre les choses essentielles et même se les répéter, les lire et les relire et les acquérir dans nos vies et ne pas être toujours vers un scoop, n'est-ce pas, d'un enseignement particulier, mais nous affermir dans la bonne base du Seigneur et rechercher à approfondir cette base. Et on peut lire, on peut relire et on peut relire les Écritures. On peut prêcher la même chose et re-entendre la même chose parce qu'on en a besoin, nous les enfants de Dieu. Alfred Kuhn dit ceci à propos du mot donc grec « perfectionner » qui signifie « préparer, rendre prêt pour le service ». La tâche principale de ces ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, est donc de préparer les chrétiens à accomplir leur tâche, à exercer leurs dons au profit des autres. Si Dieu me perfectionne, c'est qu'il a en vue un ministère. Mais je suis responsable de me perfectionner. Et ici, dans le texte que l'on trouve en 2 Corinthiens, il est écrit au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, il y a un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Dieu nous demande de nous perfectionner. Et puis un peu plus tard, il est écrit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être... Tiens, on retrouve le même mot grec, parfaitement uni. C'est exactement le même mot grec, dans un même esprit, dans un même sentiment. Le perfectionnement amène l'unité. Dieu complète ses enfants et il les transforme pour qu'ils soient unis. Et c'est un processus, c'est pour ça que j'ai choisi ce texte ici, non seulement individuel, mais aussi collectif. Si je suis perfectionné devant Christ... Et si je fais partie d'une église où mes frères et sœurs sont perfectionnés en Christ, l'église est aussi perfectionnée. C'est le résultat logique du perfectionnement individuel, le résultat collectif. Alors on va aller un petit peu plus loin. Il est écrit du perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, l'édification du corps de Christ. Qu'est-ce que ça signifie le ministère? L'œuvre du ministère. C'est intéressant parce que parfois dans les églises, on trouve des gens qui essayent des ministères. Ça marche, ça ne marche pas. Ils s'inscrivent et puis au moment où ils devraient être là, ils ne sont pas là. Une fois, deux fois, de temps en temps, ils sont là. Pourtant, ils sont inscrits à faire un ministère. Qu'est-ce qui est le problème là? Ce n'est pas un engagement, ça. Ce n'est pas un engagement. C'est d'être un touriste dans le ministère. Dieu ne cherche pas des touristes. Il cherche des gens qui s'engagent. Et ici, le mot grec pour œuvre, ergon, c'est le travail. Vous croyez, vous, alors je fais une analogie, peut-être que ça ne va pas nous plaire ce matin. Vous croyez que quelqu'un qui emploie quelqu'un d'autre le paye toutes les semaines ou tous les mois, même s'il décide, la personne, tiens, je prends une semaine de vacances par-ci, une semaine de vacances par-là, je ne vais pas au travail, je n'avertis pas mon employeur. Attendez, vous n'êtes pas employé par le pasteur, ni par les anciens de l'Église, mais vous êtes employé par Dieu. Chacun de nous. Et nous avons, enfin, personnellement, j'ai la crainte de Dieu. Je sais qu'un jour, je serai responsable devant Dieu pour chacun de vous. Et je tremble. je tremble. Mais chacun de nous, on peut trembler, parce que si Dieu nous emploie et qu'il dit que l'œuvre du ministère, c'est un travail, alors c'est sérieux. Il n'y a pas question de rémunération, il y a même question de récompense dans le ciel. Dieu ne nous met pas dans un rapport d'employeur-employé, un peu comme on voit dans le monde, mais quand même, il est un maître. Alors si je m'engage, je dois être sérieux. Je dois être sérieux dans mes horaires, je dois être sérieux dans ce que je désire accomplir, parce que c'est un travail que Dieu veut que j'accomplisse. Ce n'est pas le travail que je veux faire, c'est Dieu qui dit que dans son plan d'église, de croissance et de maturité spirituelle, Dieu veut que chacun de ses enfants travaille. Le mot signifie affaire, emploi, ce à quoi chacun est employé, ce que chacun entreprend de faire. Alors Dieu suscite dans le cœur du croyant une entreprise, une initiative, et gloire à Dieu. Mais si le Seigneur nous met à cœur quelque chose d'accomplir, mais il faut le faire, parce que ça vient de lui. Le ministère, le mot ministère, diaconia, qui a donné... qui vient du mot diakonios, n'est-ce pas, diakonos, qui signifie ministre, serviteur, magistrat, diac, diakonès. En fait, ça, ces termes, on peut le définir comme, avec ces termes suivants, service de ceux qui répondent aux besoins des autres. En fait, ce qui est frappant ici, dans le ministère, c'est que le ministère est une œuvre qui est faite pour les autres. Dieu fait d'abord une œuvre en moi, il me perfectionne, et ensuite il fait une œuvre au travers de moi pour venir en aide aux autres. Il n'y a pas de ministère sans vivre pour les autres. Nul ne vit pour lui-même. Ça veut dire que je ne peux pas chercher un ministère pour développer ma propre valorisation, pour me faire voir des autres, pour montrer que je suis capable, que je suis quelqu'un vraiment doué, puis que j'ai une certaine autorité. Attendez, vérifions d'abord que ça vienne du cœur de Dieu dans la bonne attitude. Je donne un exemple, excusez, c'est un exemple un peu négatif, mais ça me vient à l'esprit. Je me souviens d'une dame, pasteur au Québec, il y avait une dame qui rangeait les affaires dans la pouponnière. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de désordre. Et ce n'est pas bien d'avoir du désordre dans une église, puis elle était particulièrement rangée. Mais alors, j'étais dans le bureau et je l'entendais rouspéter, bougonner. Et quand je suis allé la voir, elle boudait. Elle dit, je ne comprends pas, on est dans une église, regardez tout ce désordre, il faut laver, il faut nettoyer, il faut ranger. Mais tout le temps de son service, elle râlait, elle bougonnait. Alors elle avait raison, mais elle n'avait pas raison de bouder et de bougonner. Est-ce qu'on sert le Seigneur comme ça? Est-ce que c'est ça, servir le Seigneur? Ou est-ce que c'est fait dans la joie? Le service doit être dans la joie, non? Puis pour glorifier Dieu et dans l'amour. Et si je bougonne, oh lui alors, et l'autre, oh là là. Dieu nous regarde. Dieu ne veut pas qu'on regarde aux défauts des uns et des autres, parce que la liste peut être longue. Hein? Mais Dieu veut qu'on regarde à l'amour que lui a pour nous, et qu'on regarde les autres avec amour. Et qu'ainsi, en regardant les autres avec amour, on les serve. J'aimerais vous dire une chose, un des plus grands obstacles au ministère, à l'engagement qu'il y a dans l'Église, c'est l'égoïsme. C'est le fait que Dieu nous appelle pourtant dans son plan, c'est un schéma, c'est très clair, à servir, mais on ne sert pas le Seigneur, c'est moi d'abord. Vous savez pourquoi? Pourtant il nous perfectionne, pourtant il nous équipe, pourtant on a quelque chose à donner aux autres. On ne le fait pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt à mourir à soi-même. Parce que vivre pour les autres, c'est s'oublier, oublier ses problèmes. Vivre, mourir à soi pour penser aux autres. C'est un prix, ça, à payer. Mais c'est le chemin royal. C'est quand on s'oublie qu'on est heureux. C'est quand on vit pour les autres qu'il y a une bénédiction. Voyez, Dieu veut qu'on centre ses yeux sur lui. Et en regardant à lui, on voit les autres différemment parce qu'on les voit avec amour et on veut les servir. Jésus-Christ est venu pour servir. Il nous a donné l'exemple parfait. Il est mort à la croix pour servir son Père, mais c'était par amour pour nous. C'est dans la mesure où on va mourir à soi que le ministère va se développer en soi, en chacun de nous et dans l'Église. Parfois, l'Église est un peu handicapée, comme un corps où les membres seraient parfois certains sclérosés ou handicapés ou non fonctionnels. Alors, il peut y avoir certaines crises passagères, certaines maladies, grippe passagère si vous voulez, ou peu importe. Mais Dieu guérit aussi. Dieu guérit. Dieu est amour, il guérit. Il veut prendre soin de nous dans les fibres les plus intimes de notre être. Il veut vraiment nous guérir. Puis il veut que nos membres soient sains, qu'ils fonctionnent, remplis du Saint-Esprit, remplis de la sève qui coule, parce qu'attaché au cep, Jésus-Christ, comme des sarments qui portent du fruit, beaucoup de fruits, et encore plus de fruits, afin que notre Père céleste soit glorifié. C'est la volonté de Dieu, cela. Et c'est possible dans le ministère. C'est dans la volonté de Dieu que chacun de nous en ait un ministère. Quel est votre ministère? Celui que Dieu vous a confié. Pas l'Église, que Dieu vous a confié. Qu'est-ce que vous avez dans le cœur pour servir? Et je dois dire, c'est souvent cité dans les commentaires, mais ce n'est pas le rôle du pasteur ou des anciens de tout faire dans l'Église. Le but de ces hommes équipés, verset 11, c'est d'équiper les saints pour pouvoir que eux exercent le ministère. John MacArthur dit, le plan fondamental de Dieu pour l'Église prévoit un perfectionnement des saints qui le permet à eux d'exercer un ministère les uns envers les autres. La clé d'une Église, d'une maturité et d'une croissance, c'est quand les croyants exercent un ministère les uns envers les autres avec amour. Et la Bible mentionne tellement de fois l'expression les uns les autres, on va y venir dans un instant. Qu'est-ce que c'est que l'édification du corps? On va terminer avec ça. Le mot grec, c'est l'idée de maison et puis d'un toit. C'est bâtir, c'est d'achever une œuvre commencée. On sait que l'œuvre, Dieu l'a bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et chaque pierre vivante qui s'ajoute, c'est merveilleux. Chaque nouveau chrétien qui est ajouté au corps, c'est un sujet de joie pour tout l'ensemble. Et ça nous édifie de voir des nouveaux arriver au Seigneur, grandir dans le Seigneur. Il n'y a pas de plus grande joie de voir une âme se tourner vers le Seigneur et de voir ensuite sa croissance spirituelle dans le Seigneur. Parce que de nos yeux, on voit l'œuvre de Christ. Mais on doit la voir aussi dans les croyants qui ont 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans de conversion. Est-ce que Dieu est en train toujours de perfectionner les cœurs et les vies? Est-ce que Dieu est en train d'utiliser les frères et sœurs après tant d'années? Mais oui, il est possible de servir le Seigneur et de servir de tout son cœur pour édifier les autres et de penser aux autres. L'édification du corps, oui, par l'extérieur, les âmes nouvelles, l'intérieur, la croissance spirituelle à l'intérieur. Et Dieu dit ceci, maintenant je vous recommande à Dieu, c'est Paul qui parle, et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier. Alors on sait que c'est Dieu qui peut le faire en nous, cette édification. Mais Paul en Romains dit, ainsi donc, recherchant ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle, que chacun de vous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Voilà, Dieu est l'architecte, Dieu est le constructeur, Dieu veut bâtir. Et son œuvre, elle a de la valeur, hein, c'est un chef-d'œuvre. Mais on ne peut pas bâtir, même si on est des pierres vivantes, on participe à la construction de n'importe quelle façon. Dieu veut que, comme dans un bâtiment, chaque morceau a sa place bien précise et est utile, que chacun ait une place, et une place pour chacun. Chacun a sa place et joue un rôle dans cet édifice, bâtir. L'édification, c'est bâtir un édifice. Dieu construit. Est-ce que nous faisons fonction de bâtisseur avec lui? Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. C'est vrai que c'est lui, mais est-ce que nous faisons fonction de bâtisseur? Est-ce que nous avons un ministère au sein de l'église de nous édifier les uns les autres? Alors des fois, c'est vrai qu'on passe des moments difficiles et on peut être plutôt un sujet de découragement, peut-être même une occasion de chute. Mais Dieu redresse ce qui est abattu, Dieu relève celui qui est à terre et Dieu le bénit. Et puis les frères et sœurs, on devrait être comme les pistons, hein, les uns, se soutenir les uns les autres. Chaque pièce du moteur est utile et a une fonction bien précise et nous devons avoir besoin de réaliser que nous sommes un corps. Est-ce que ce matin, juste quand je vous parle par rapport à ce sujet, est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à un corps ici? Est-ce que vous vous sentez aimé, apprécié, aimé par Dieu, utile? Parce que c'est la volonté de Dieu. Et pour soulever l'expression édification du corps de Christ, édification mutuelle, il y a l'expression grecque qu'on trouve 35 fois les uns les autres dans le Nouveau Testament, sans parler aussi l'expression l'un l'autre et puis réciproquement. Je vous lis quelques expressions. La première, vous en doutez, aimez-vous les... On la trouve 12 fois dans le Nouveau Testament, surtout dans l'évangile de Jean et la première épître de Jean. Exhortez-vous les uns les autres, attendez-vous les uns les autres, consolez-vous les uns les autres, accueillez-vous donc les uns les autres, saluez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres, et puis soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Autrement dit, Dieu est à l'origine de ce plan, mais chacun est utile. Dieu a donné un don en particulier à chacun. Et la Bible dit en 1 Corinthiens 12 que c'est pour l'utilité commune. Il n'y a donc pas un service pour Dieu qui amène à l'expression d'un égoïsme ou une satisfaction personnelle. Le don de Dieu fait qu'on est là pour servir les autres. On sert les autres. Peut-être vous cherchez un épanouissement personnel, j'allais dire pourquoi pas un rafraîchissement, un renouveau, eh bien, allez au pied de la croix, cherchez le Seigneur, et puis il va vous remplir. Et peut-être il va vous demander de servir dans une mesure à laquelle vous n'avez jamais pensé. Et votre joie va venir de vivre pour les autres, de vous perfectionner pour servir, servir les autres, édifier, édifier les autres. C'est bon d'être ensemble. Le psaume 133 dit que c'est comme la rosée qui descend du mont de l'Hermon, etc., comme l'huile de la barbe d'Aaron. Est-ce qu'on a plaisir d'être ensemble? Est-ce qu'on se fait du bien les uns les autres? On n'est pas obligé de partir de suite à la fin du culte. Enfin, des fois, c'est nécessaire, mais c'est pas qu'au culte qu'on peut se faire du bien. Ça, c'est juste un moment dans la semaine, jour après jour. Est-ce qu'on pense aux autres? Est-ce qu'on a une liste peut-être de besoins, de prières, de sujets de prière des uns et des autres? Est-ce que nous pensons aux autres? Est-ce que notre Église, voilà, c'est pas mon Église, c'est l'Église de Christ. Et donc, j'accepte de me perfectionner, j'accepte d'exercer un ministère, et je cherche à édifier ce que Christ veut que j'édifie, son corps, pour lequel il a versé son sang, pour lequel il est mort. Quel privilège, frères et sœurs, de participer à cet édifice. Et cet édifice est éternel. Il subsiste, cette œuvre, pour l'éternité. Prions. Notre Père céleste, nous réalisons notre désir et besoin aussi, que toi seul peux combler, de mieux te servir. Et Père éternel, aide-nous dans ce domaine en tant qu'Église. Fais-nous grandir, perfectionne-nous. Donne-nous d'exercer des ministères les uns envers les autres, de consolation, d'exhortation, d'aide, de service, de tout ordre, Seigneur. De penser pour les autres, de vivre pour les autres, tout en priant, Seigneur. Et ainsi tu seras glorifié et honoré. Au nom de Christ. Amen.